Alors, on arrive presque à la fin de ce livre qui compte près de 450 pages. Une éloge à citer, c'est celle de Pierre Meunier, qui est ami de Jean Moulin, secrétaire général de du Conseil national de la résistance, qui vous a fait une lettre au début de l'année précédente. La synthèse que vous avez réussi à faire présente, à partir des textes que vous citez, un intérêt essentiel pour la connaissance des faits relatifs à une période méconnue et cependant déterminante de l'avenir des nations. Et puis l'autre également, c'est celle de Jean-Pierre Cotte, le fils de Pierre Cotte, donc que Jean Moulin a bien connu, grand ami et patron de Jean Moulin. Ensuite, 95, il vous a écrit: j'ai lu avec un vif intérêt votre ouvrage passionnant et passionné sur Jean Moulin. Il est important que votre voix et vos analyses se fassent entendre, diffuser. Elles le font ce soir. C'est moi qui le rajoute ceci. Elles vont à contre-courant d'une certaine tendance. Tant mieux. Vous êtes contents tous les deux de ces deux lettres amicales?
Oui, évidemment.
Bien connu, Jean Moulin.
Oui, évidemment, ça tient à la qualité des personnes qui nous envoient ces lettres-là. Ça tient à...
Je rectifie que, quand bien connu Jean Moulin, tout au moins l'un d'entre eux, Pierre Meunier, l'autre n'a sûrement pas eu la chance de connaître.
Voilà. Effectivement, pour nous, c'est un réconfort, car dans la situation actuelle, il n'est pas certain que beaucoup de gens aient les mêmes conceptions semblables à celles que manifestent Jean-Pierre Cotte et Pierre Meunier. La chose qu'on peut dire dans ce cas, c'est que ces deux personnages disposent sans doute d'informations qui nous conduiraient un tout petit peu plus loin et qui conduiraient le pays dans le sens de: est-ce que nous sommes dans un pays démocratique ou pas? Donc il y a certainement là des choses qui pourraient nous conduire les uns et les autres plus loin. C'est pourquoi il faut faire avancer le dossier de Jean Moulin. C'est pourquoi il faut dire aux jeunes, aux moins jeunes et à ceux qui ont connu cette époque-là, que Jean Moulin doit absolument ressortir des limbes où l'histoire officielle a pu l'enterrer. Car ce qui va se passer dans les années futures a de fortes chances d'être tout à fait terrible, tout en étant pratiquement invisible et en étant de toute façon actuellement insaisissable. C'est ce que nous avons compris dans les propos, surtout de Pierre Meunier.
Dans la lettre que Pierre Meunier vous a adressée en janvier 95, il cite des faits relatifs à une période méconnue et cependant déterminante. L'autre période qui a précédé justement 40-41, la naissance de la résistance. Sous la résistance, notamment sous cette période sous la résistance, Henri Noguer, qui était l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, a écrit un volumineux ouvrage, en 5 tomes, sous la résistance. Le 4e tome est entendu de Cordier sur Jean Moulin. Bien d'autres historiens ont écrit sur la résistance. Pensez-vous que sur cet aspect-là de cette période, il y a encore à écrire?
Je ferai une différence essentielle entre Henri Noguer et Daniel Cordier. Henri Noguer, la plupart du temps dans ses livres, ne donne aucune citation, aucune référence à aucun texte quel qu'il soit. Daniel Cordier est allé chercher tous les documents possibles sur cette époque. Nous travaillons notamment à partir des ouvrages de Daniel Cordier parce que justement, il fait un travail immense. Il va chercher dans les textes d'époque et il est certain que quand on s'intéresse à la résistance, on ne peut pas faire autre chose que s'intéresser aux textes d'époque. C'est-à-dire que les souvenirs, c'est bien gentil, c'est très intéressant, mais ça ne permet pas de comprendre vraiment les événements tels qu'ils se sont passés. De la même façon, les écritures et réécritures ne sont pas non plus évidentes. Il faut absolument aller chercher les textes d'époque.
Oui. Est-ce qu'il y a encore donc des documents à trouver, à rechercher pour parfaire l'histoire de cette période?
En particulier, ce qui serait intéressant de connaître, c'est ce qui s'est passé.
Parfaire, mieux connaître l'histoire.
Oui, il reste un point d'ombre considérable. C'est le rôle de l'armée française en 1940, ce qui a précédé la défaite, ce qui a été la réalité même de la défaite. Là, ces documents-là sont inaccessibles. On peut toujours essayer d'aller les chercher au fort de Vincennes. Ça sera vraiment difficile.
Pourtant, 50 ans se sont passés.
Oui, mais l'armée ne tient pas nécessairement compte de ce laps de temps. Et puis, de toute façon, il n'y a pas que l'armée. Les enjeux sont tout bonnement terribles. Ils sont terribles. Et il ne faut donc pas qu'on utilise le général de Gaulle en disant « c'est un militaire » pour redorer le blason de l'armée française. L'armée française s'est très mal comportée, et pensons simplement à l'armée espagnole sous les ordres du général Franco.
Donc l'état-major français, pourrait-on dire. Parce que bon, il est vrai que dans les soldats français qui ont combattu en 1940, bon, il y a eu quand même quelques actes de résistance armée, entre guillemets. Bon, de même qu'il y a eu également, de la part de troupes coloniales, nous parlions tout à l'heure en début d'émission des Sénégalais, de la part d'autre part des unités polonaises, des divisions polonaises qui étaient en action notamment dans le secteur vosgien, hein, et c'est surtout parmi ceux-là qu'on a, recruté les véritables combattants qui ont décidé à un moment de dire stop, on arrête et c'est ici qu'on se fera tuer ou qu'on arrêtera les Allemands encore. Donc là, il y a aussi sur le plan donc de la dichotomie qu'on trouvait tout à l'heure entre un gouvernement et un peuple ou les citoyens, entre un état-major et une armée et des soldats, on retrouve également tout cela. Alors dans cette perspective, justement, en tant que, j'irais, citoyen d'aujourd'hui, quelle est la leçon pratique qu'on peut tirer de l'histoire de Jean Moulin?
C'est d'abord la question de l'information. Jean Moulin était quelqu'un qui était très informé, et par exemple il avait pu s'approcher de l'amiral Darlan avant le début de la guerre, et il avait compris beaucoup de choses concernant l'amiral Darlan. Donc dans une démocratie réelle, on pourrait imaginer que le citoyen de base serait en mesure de comprendre les enjeux ou la plupart des enjeux. Alors donc il y a une double chose dans ce cas, il y a le problème de l'accès à l'information, je le disais toujours tout à l'heure pour ce qui concerne l'armée française, et puis il y a surtout le goût d'en savoir plus. Il est bien certain que notre travail sur l'enseignement et la psychiatrie a été une dure leçon pour nous, c'est-à-dire que nous avons compris que l'enseignement ne remplissait pas son rôle, que ce n'était pas par hasard, qu'il avait tout à fait intérêt à dresser des personnages de légende. Moulin n'est pas un personnage de légende. C'est un petit homme seul, véritablement seul, et 50 ans après, il est toujours tout seul, et le Panthéon, c'est vraiment quelque chose de grand. Il faudrait qu'on aille tous un petit peu à côté de Jean Moulin, au Panthéon, pour remplir ce Panthéon-là qui nous écrase et qui n'a pas fini de nous écraser.
Une dernière question à propos de cette période, mais qui a en relation avec l'actualité. Depuis quelques années maintenant, on cherche à voir s'il y a crime contre l'humanité pour les quelques survivants qui restent. Bousquet a été assassiné en 1994, je crois. Papon, il risque d'être traduit devant un tribunal pour crime contre l'humanité. Pensez-vous que c'est encore des choses qui sont d'actualité, même 50 ans après, et qu'il faut aller jusqu'au bout de cette démarche?
C'est un peu tard, mais en fait, ce n'est jamais trop tard. On peut se demander pourquoi il a fallu attendre 50 ans pour se poser des questions sur des personnages qui étaient bien en vue à l'époque des événements et qui n'étaient pas du tout dans la résistance. C'est un peu tard, mais il est certain que c'est peut-être à chacun de nous de voir, en tant que citoyen et que citoyenne, c'est à chacun de nous à voir, à chercher la vérité, à essayer de comprendre. Et il est certain que aller voir du côté de Papin, du côté de Bousquet, c'est intéressant. Il faut, nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé réellement. Par ailleurs, le pays est en déliquescence sur le plan économique, social, intellectuel. La culture est entre les mains de gens qui essaient de tout bloquer. Nous avons de quoi nous faire du souci. Nous sommes dans un fascisme rampant, mais un fascisme tout de même. Donc, nous nous faisons beaucoup de soucis. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous nous faisons beaucoup de soucis pour les générations qui viennent après nous. Nous n'allons pas leur laisser un beau cadeau.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Michel Cuny?
Oui, je voulais dire que au moment de la libération, quand les camps de concentration ont été découverts, évidemment, ça a été quelque chose de terrible. Et tout de suite, le nazisme s'est révélé dans son côté terriblement monstrueux. Peut-être cela a-t-il fait oublier le problème du fascisme. Le fascisme par lui-même est peut-être un peu croquignolesque, si on songe à Pétain, à Mussolini, et même à Franco, si ça fait des centaines de milliers de morts. C'est croquignolesque simplement parce que le nazisme, ça va tout de même beaucoup plus loin. Il faut maintenant se poser la question du fascisme. Jean Moulin ne se dressait pas contre le nazisme des camps de concentration, il n'était pas obligé à l'époque de savoir jusqu'où ça allait. Il se dressait simplement contre le fascisme, c'est-à-dire contre quelque chose qui est évidemment aux antipodes de la démocratie. À l'heure actuelle, le problème qui se pose, c'est de définir le fascisme d'avant-guerre pour comprendre le fascisme d'aujourd'hui. Et la conséquence, ou alors ce qui viendrait avant cela, c'est définir la démocratie. Il ne suffit pas de songer à la culture démocratique classique dont on nous parle toujours. Il faut regarder jour après jour ce qui se passe.
Oui, Jean-Claude.
Oui, ben là, on tombe en plein dans un problème contemporain qui mérite réflexion. Bon, c'est vrai qu'on a parlé aussi, on a utilisé le terme d'image d'Épinal en début d'émission, et on va peut-être, si vous y terminer aussi sur ce terme-là. Bon, c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de fascisme, quand on parle aujourd'hui de nazisme, on a toujours une référence, c'est la référence de cette période-là, de cette période de la Seconde Guerre mondiale et de la période qui l'a immédiatement précédée. Et l'on s'imagine que ça se manifeste obligatoirement par des chars à tous les coins de rue, par des bruits de bottes cloutées le soir dans les rues, alors qu'en fait nous avons affaire aujourd'hui à un fascisme soft, entre guillemets, pour employer une expression tout à fait à la mode. Alors Françoise Petite-Mange.
Il y a quelque chose qui me tient à cœur et que je voudrais signaler ici. Il y a 20 ans, nous voulions faire une conférence au lycée Jules Ferry de Saint-Dié sur enseignement, culture et responsabilité personnelle. Michel Cuny et moi-même, nous sommes allés au lycée et nous avons trouvé porte close. Aucun enseignant n'était intéressé par le sujet. Nous parlions de crise économique il y a 20 ans. Nous étions considérés comme des troubles faits dans cette belle société de consommation où tout le monde pouvait se payer des corbeilles de fruits, tout allait très bien. Merci Madame la Marquise. 20 ans après, nous sommes à Saint-Dié, nous voyons le désastre, nous voyons la misère sur les gens. C'est triste. Ça me laisse sans voix. Et je me dis, certaines personnes ont perdu 20 ans, pas nous.
Dernière question, à propos, non pas à propos de ce livre, mais de vos projets, est-ce que vous avez en termes d'écriture donc un autre essai d'histoire ou revenir à la période romanesque, si je puis dire?
Pour ma part, je travaille sur une pièce de théâtre. C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, mais j'aime la création comme Michel Cuny. Nous cherchons, quand nous écrivons des livres, nous créons. Donc c'est une expérience intéressante pour moi de m'occuper de cette pièce de théâtre, de travailler cette pièce de théâtre d'une façon individuelle. Par ailleurs, je travaille avec Michel Cuny en collaboration pour un ouvrage sur le général de Gaulle.
Et Michel Cuny,
pour ma part, donc je suis...
Mis à part donc cette voilà. Heure...
Je suis occupé à préparer un roman qui me... renvoie vers l'époque de mes 17 ans.
Et, d'accord. Je on dois revient dire, au samedi de mai.
Voilà, et on revient à ce que j'appelle la saison des amours, c'est-à-dire que peut-être y a-t-il une époque dans la vie où beaucoup de choses sont possibles, effectivement possibles, et moi je suis occupé à mesurer ce qui était possible quand j'avais 17 ans et ce qui n'a pas été possible pour ceux qui avaient 17 ans en même temps que moi.
Eh bien, merci Michel Cuny et Françoise Petite-Mange.
Merci.
On aura l'occasion de vous revoir demain, donc, peut-être rappeler.
Oui, pour une conférence débat sur invitation du musée. Cette conférence débat aura lieu, enfin, l'après-midi commence.
Aura lieu à l'issue, la parole,
oui.
À l'issue de l'Assemblée Générale de la Société des Amis de la Bibliothèque et du Musée, donc à 14h30,
voilà.
À salle du musée à Saint-Dié. Donc voilà, il y aura bien entendu la possibilité pour les personnes qui s'intéressent de poser des questions beaucoup plus pointues ou qui les intéressent un peu plus spécifiquement et qui n'auraient pas pu être abordées ce soir.
Merci et bonne plume, bonne conférence demain et puis bonne plume pour vos futurs ouvrages.
Merci à vous deux.
Merci, bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir à tous.
L'émission est réalisée ce soir par Valérie et par Hervé. Je vous retrouverai bien sûr pour une prochaine fois sur la même antenne, 5.9, à micros ouverts le vendredi soir. Très bonne fin de soirée et bon week-end. Au revoir.